C'est un peu comme le BCG, quoi. Mais c'est en prenant l'angle de l'espace comme façon d'aborder le problème.
Okay.
Il y a toute une technologie derrière.
Vous faites de l'ingénierie aussi ou...
Bah, c'est-à-dire que si c'est très technique, on va plutôt se sous-traiter, parce que nous, on est sur le conseil stratégique. Donc, bilan carbone, c'est pas nous qui le faisons, mais par contre, on peut...
Ça peut rentrer...
Si le client en a besoin, on va d'abord vraiment savoir avec lui s'il en a vraiment besoin. Comment est-ce qu'il va l'utiliser ? Est-ce que c'est vraiment son problème ?
Voilà, donc on va commencer cet après-midi avec nos deux intervenants que nous étions très inquiets de ne pas avoir venir, mais les voici, ils sont absolument fidèles à leur parole. Nous avons demandé à Patrick Poncé, c'était une proposition du comité de pilotage, je trouve ça tout à fait intéressant, c'était de faire parler une personne sur le territoire qui n'est pas issue de la culture. Donc Patrick Poncé est géographe. Et on lui a demandé de faire une sorte de croisement. Il ne m'écoute même pas, Patrick Poncé. Donc, il s'en fout complètement de ce que je lui demande. Donc on a demandé à Patrick Poncé, indirectement, mais il fera absolument ce qu'il veut, de faire un croisement entre la représentation mentale que peut avoir chaque acteur de son territoire et la représentation réelle du territoire, de comment ça se construit, etc. etc. Donc voilà, il a accepté de relever le défi, je dois dire, assez sympathiquement. Mais surtout, ce qui nous a intéressé dans sa présence, c'était qu'il ne venait pas de nos problématiques à nous. On ne parle pas tout à fait... des fois, nous avons tendance à avoir un espèce de langage elliptique et clanique qui empêche des fois la pensée d'avancer. Donc nous demandons à Patrick de nous ouvrir à d'autres horizons. Après Fabrice Raffin, que je remercie aussi beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, donc Fabrice Raffin est sociologue de la culture. Il a fait un certain nombre de travaux qui nous intéressaient parce que, bien entendu, il s'est beaucoup intéressé à l'art en marge, je dirais, mais ça, il vous l'expliquera beaucoup mieux que nous. Mais c'est surtout parce qu'il a travaillé sur le territoire francilien et sur le questionnement qu'on s'est posé beaucoup lors du dernier séminaire et qui est revenu hier, et qui était la question de l'art, quoi. La question de l'art et la question des populations. Et ce lien-là entre les deux et l'action culturelle, enfin voilà, c'est cette espèce de mélange, il a beaucoup réfléchi dessus et je trouve ça intéressant qu'il nous retranscrive son expérience. Donc je vous laisse, bon après-midi.
On va y aller. Hein. C'est à la fois, c'est des choses qu'on avait déjà évoquées lors des deux premières journées de ce séminaire et puis déjà hier. En tout cas, c'est ressorti assez fortement, ces questions d'articulation entre les différents niveaux, à la fois au niveau territorial, mais aussi espace de vie, mais aussi articulation entre différents niveaux institutionnels, empilement ou foisonnement. Enfin, c'est toutes les problématiques qu'on a abordées, effleurées, pas automatiquement été à fond dedans, mais on sent bien et ça rejoint indirectement la question qui a été posée ce matin sur les freins et les leviers à la coopération, c'est-à-dire que c'est logique. Comment aussi sortir chacun de son propre territoire, ou au contraire enrichir et investir son propre territoire pour travailler avec les autres. Voilà, donc on commence par vous.
Alors, on a combien de... Comment ça s'oriente dans le temps, cette histoire ? Donc pendant 30 minutes on dort. D'accord. Bon, d'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à parler de géographie. Comme vous le disiez tout à l'heure, je suis spécialiste absolument pas ni de choses culturelles, ni de politique culturelle, et je suis géographe généraliste et même pas géographe de la culture. Donc, toute question ayant trait à la nouvelle politique de je ne sais quoi, je ne sais où, je n'aurai aucune réponse précise. Par contre, si vous m'expliquez en quoi consiste la politique en question, ce que je peux éventuellement faire, c'est de vous en donner ma lecture géographique. Donc, le but que je me suis fixé aujourd'hui avec vous, c'est très pédagogique finalement, c'est de vous éclairer sur ce que la géographie est comme outil de pensée des problèmes. J'ai mis ce petit visuel là en ligne tout de suite. Bon, ça c'est la société que je viens de créer, ça c'est de la pub, mais je l'ai mis pour deux choses. C'est que, enfin pour trois même, c'est d'abord le slogan, hein, c'est découvrir les espaces que vous connaissez. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est tous plongés dans des questions de territoire. On m'a présenté cette réunion, cette conférence, comme un questionnement sur la création et les territoires et les représentations. Il se trouve que dans le vocabulaire des géographes, le territoire, c'est quelque chose de très précis, c'est un objet caractéristique d'un certain mode de fonctionnement de la société, et c'est absolument pas ce qui résume la géographie. Donc cette idée de découvrir finalement les espaces, on pourrait mettre les territoires pour rester dans cette terminologie, mais c'est plus cohérent, vous verrez, de parler d'espace, dire qu'on est tous plongés dans les territoires qu'on croit connaître ou qu'on connaît au sens où on a une expérience de ces territoires, mais c'est pas pour autant qu'on a compris comment ils fonctionnent et qu'on est dans cette logique d'exploration, de savoir vraiment d'aller au fond des choses. Non, ma modeste approche aujourd'hui, ça consiste à vous donner quelques outils qui, vous verrez, sont assez théoriques. Alors j'essaierai d'être le moins barbant possible, mais en même temps, j'ai pas voulu apporter un PowerPoint ou quelque chose qui aurait monopolisé l'attention au niveau d'image ou quoi que ce soit. Et je réagis tout de suite à deux choses qui ont été dites. La première, c'est que la géographie, c'est les cartes. Bon, là, j'ai pas mis de cartes, j'ai mis des photos. Parce que ça, là, ici, ce qu'on a mis, vous voyez, ce sont des espaces, enfin des lieux en particulier, et c'est tout aussi important d'avoir une vision surplombante, celle de la carte, qui a des caractéristiques particulières. On verra que c'est, du reste, pour les problématiques qui nous intéressent, pas forcément ce qui est le plus important comme outil et le plus intéressant. Et il y a aussi des façons d'appréhender les choses plutôt au ras du sol, qui créent des perspectives, qui créent des plans et qui sont tout aussi intéressantes. C'est aussi le projet de Qual City de se mettre au pas forcément tout le temps au niveau du sol, mais de montrer que les lieux ont quand même une substance, une logique expérientielle qui ne doit pas forcément se résumer à des visions surplombantes. Ça ne change pas que tout à l'heure je vous montrerai des cartes. Alors je réagis aussi pour vous dire ce que n'est pas la géographie, ou en tout cas on ne peut pas la résumer à ça, donc on ne peut pas la résumer aux cartes, à la cartographie, c'est deux métiers différents. La cartographie, c'est une technologie, c'est-à-dire c'est un ensemble d'outils. Et par ailleurs, en venant dans le couloir, on a cité ce fameux ouvrage qui s'appelle « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Donc la géographie n'est pas la polémologie, ou n'est pas la science de la guerre seulement, bien qu'on peut essayer de comprendre comment ça marche. Et on verra que, effectivement, il y a un rapport assez fort entre cette idée d'associer la géographie à la guerre et au territoire, puisque fondamentalement, c'est la traduction de la guerre ou la raison de la guerre, avant tout, c'est la logique du territoire. Et vous avez aussi dit, je me rappelle, sur la 38e marche en descendant l'escalier, que c'était pas que du territoire. Donc il faut savoir qu'est-ce que c'est d'autre. C'est ça qui est intéressant. J'ai aussi entendu tout à l'heure dans la discussion que vous aviez tout à l'heure, vous parliez du territoire, d'espace, vous disiez la ville, c'est le réseau. Donc on verra aussi que nous, on a, en tant que géographe, on a une définition très précise de ce qu'est le territoire, est-ce que c'est le réseau, et justement les façons de les opposer. Écoute qui? Ah oui, ils espionnent. Donc oui, non, faut pas tomber dans l'oreille d'un sourd, mais il y a des géographes sourds. Non, la question de la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. C'est un bouquin d'Yves Lacoste, sorti dans les années 60, qui en fait n'est pas du tout compris dans le sens réel enfin, le titre avait un double sens. Il avait le sens premier qui est effectivement qu'il y a un rapport étroit entre la connaissance géographique ou la production du savoir géographique et la motivation et la façon dont se déroulent les conflits. Mais en fait, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans, Bon, Yves Lacoste a très mal tourné, c'est parce qu'il est resté à ça, alors que la géographie a continué. Mais à l'époque, il était précurseur d'une approche qui était finalement très originale. C'est-à-dire que on était arrivé au début du XXe siècle, vers 1903 à peu près, avec un personnage qui s'appelle Paul Vidal de Lablache, dont vous avez peut-être vu les cartes dans vos salles de classe quand vous étiez à l'école, qui a préempté la géographie en tant que discipline universitaire, en faisant, moi, ce que je considère être un mauvais choix, c'est-à-dire au moment où naissaient les sciences sociales, en particulier avec la sociologie, Durkheim et d'autres. Il y avait une possibilité, il y avait deux voies à suivre. Soit l'explication du social par le social, c'est ce qu'a choisi la sociologie, soit l'explication du social par la nature. Et là, en fait, Vidal de Lablache a occupé un créneau dans cette optique-là, puisqu'il s'agit de se mettre au service de l'histoire pour en construire le décor. Et il a en particulier rédigé un ouvrage qui s'appelle « Le tableau géographique de la France », qui est une annexe géographique à l'histoire de France de Lavis, et qui est imprégné de cette idée que l'homme est adapté au sol. Quand on dit l'homme adapté, ça veut rien dire, c'est pas une explication, c'est éventuellement un constat sur un certain nombre de critères, et là-dessus s'est fondée toute une pensée de la société, en tout cas en France et dans l'école de géographie française, qui est que on observe que le Provençal est bien adapté à la nature provençale et que personne ne peut s'adapter en Provence. Il y a un texte formidable là-dessus sur le sujet, enfin c'est assez intéressant, et même dans ce texte-là, il dit une phrase à un moment donné, quelque chose comme on n'a pas assez étudié le rapport entre le climat et l'âme des habitants, cette science est encore à faire. Alors, il faudrait lui dire que Montesquieu s'en est déjà occupé. Bon, donc là, il y a eu une orientation très forte. Alors, vous savez que les systèmes académiques ont tendance à se reproduire, à se préempter, à se coopter et à occuper le terrain. Et ce qui fait que pendant un bon paquet de temps, en passant par le pétainisme, vous savez, Pétain disait « la terre ne ment pas », donc on avait engagé la géographie sur la voie d'une explication naturaliste du social, ce qui excluait au passage tous les phénomènes émergents comme le phénomène urbain. Et tous les phénomènes qui sont liés à l'urbain, comme en particulier les questions culturelles, les questions de changement. Hein, donc, ce qui intéressait Vidal, c'était la logique des permanences, une permanence qui était naturelle. Avec cette idée, je crois que la conclusion du tableau géographique de la France, c'est quelque chose comme ce qui est fixe et permanent dans la constitution de la France doit demeurer à jamais notre guide. Bon, c'était bien, le programme était fixé. Tout ça arrive dans les années 60 avec deux bouleversements. Un bouleversement qui est la quantification et les analyses statistiques. Donc ça crée la géographie quantitative, donc qui appréhende le social par l'étude des comportements en particulier, et leur quantification. Et puis une autre approche qui est celle de Yves Lacoste, qui est de dire la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, ça sert d'abord à expliquer pourquoi les gens se tapent dessus. Ce qui est là est fondamentalement social, même s'il peut y avoir des questions d'accès aux ressources. Les ressources ne sont jamais que valorisées dans le cadre d'une filière. Hein. Le pétrole n'existait pas en tant que ressource énergétique avant qu'on sache quoi en faire. Et c'est pas dit que ça dure. C'est en ça que la géographie, ça sert à faire la guerre, ça se positionnait dans un cadre épistémologique, dans une dynamique de l'évolution d'une discipline qui consistait à placer une rupture en disant la géographie, c'est une science sociale. Après, on pouvait aller un peu plus loin. Lacoste n'est pas allé très très loin, il a eu tendance à considérer, du coup, après, que tout est géopolitique et tout était guerre. Donc, à partir du moment où tout est guerre, plus rien n'est guerre. Tout est géopolitique, plus rien n'est géopolitique. Donc, la question, c'est de comprendre à quel moment est-ce qu'on passe du géopolitique au politique. C'est-à-dire, à quel moment est-ce qu'on est dans une logique de l'ennemi, on passe de la logique de l'ennemi à la logique du problème. Et, c'est bien aujourd'hui ce qui rend qui pose une limite claire à l'approche géopolitique. C'est l'étude de la mondialisation, parce que le monde n'a pas d'ennemis, il n'a que des problèmes. Donc il faut essayer de trouver une solution à ça, et une solution qui ne peut se trouver que dans des ressources théoriques et des évolutions théoriques de la discipline qu'est la géographie. Alors une fois que maintenant que j'ai dit ce que ça n'était pas, je peux essayer de dire ce que c'est. Bon, d'abord, on va laisser de côté l'idée de territoire, maintenant on va parler d'espace, si je peux me permettre. Et je vais dire que l'espace, c'est une relation de coexistence qui est appréhendée entre des individus, par exemple, entre des réalités sociales, soyons très abstraits. Ça peut être des États, ça peut être des entreprises, des clients, des vendeurs. Et cette relation de coexistence, elle est définie par un degré d'écart. Ce degré d'écart, il est mesurable par ce qu'on appelle une distance. Donc un espace, pour, si on devait formaliser les choses, hein, c'est ici nous composons un espace, c'est-à-dire que chacun de nous est séparé de son voisin ou des autres par une distance. Et la géographie, ça consiste tout simplement à comprendre pourquoi l'écart entre deux personnes dans la salle, ici, vaut telle distance plutôt qu'une autre. Et là, on a bien compris qu'il y a une plus grande distance entre vous et moi qu'entre moi et mon voisin parce qu'il y a un statut, ce qu'on appelle une substance, en théorie, qui n'est pas le même. Je suis intervenant, monsieur est intervenant, monsieur est modérateur, comment dit-on. Nous sommes d'un côté, avec des distances restreintes, si on mesure en centimètres, et vous êtes l'auditoire, donc il y a forcément un écart qui correspond, hein, qui est la traduction spatiale d'une position sociale différente. Et puis, réciproquement, vous êtes groupés entre vous parce que vous constituez un groupe identifié. Vous aviez évoqué tout à l'heure le fait qu'on n'aurait pas forcément dû dans cette salle et qu'il y avait d'autres dispositions possibles dans les séminaires précédents, par exemple d'une salle en U, etc. La configuration va à la fois traduire une position des uns par rapport aux autres, un stade, donc là on va voir la traduction spatiale d'une sociologie, d'une certaine manière, d'une organisation à un moment donné, et elle va rendre possible un certain nombre de relations. Là, effectivement, c'est pour l'interactivité, c'est pas aussi évident que dans une table en U où on serait intercalé entre intervenants et auditoires, tout autour d'une table. Donc, c'est pas autre chose la géographie. Le problème, c'est que c'est pas autre chose, mais appliqué à tout. Donc, ça peut faire beaucoup de choses. Ça s'applique à cette question-là, c'est-à-dire dans un problème donné, un objectif donné, quel est le rôle de la distance? Vous pouvez analyser toutes sortes de choses, de la relation interindividuelle, de la configuration d'un espace, aussi restreint que ce lieu-là, cette salle, jusqu'à la mondialisation en passant par, justement, la guerre. Donc la question, c'est la question de la distance, et un ensemble de distances entre un ensemble de réalités sociales fait un espace. Donc d'où la science de l'espace, science sociale de l'espace, qui est la géographie. La deuxième étape dans le raisonnement pour présenter les choses, pour gagner un peu en complexité, c'est que la distance dont j'ai parlé tout à l'heure, je l'ai mesurée, j'ai cité le mot centimètre. Ça, c'est ce qu'on appelle les distances euclidiennes. Les distances qui, pour un mathématicien, je ne sais pas si vous avez une notion de mathématiques, mais qui respectent l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire que dans un triangle, le trajet AB plus BC est toujours plus grand que le trajet AC, trajet direct. Il se trouve que dans la réalité sociale, la distance, si vous la mesurez autrement qu'en mètres ou en kilomètres, vous allez vous rendre compte que cette inégalité n'est pas toujours égale, n'est pas toujours vraie. De même que le trajet AB et le trajet BA n'est pas toujours le même. Dans un cas, à une heure donnée, le Paris-banlieue ou banlieue-Paris, il y a des embouteillages ou pas. Donc c'est pas le même temps de trajet. Ça fait qu'au final, les distances au sein de la société sont vécues par les acteurs sociaux de manière très différente de celles qui les représentent, par exemple sur une carte, par une simple homothétie. Hein. Le trajet Paris-Lyon, il fait que 2 heures, et en 2 heures à partir de Paris, vous n'allez pas aussi loin qu'à Lyon si vous partez dans d'autres directions et si vous prenez pas le TGV. Donc un espèce d'espace qui se retourne comme ça, qui n'est pas le terme consacré pour nous, c'est l'idée d'euclidien, c'est-à-dire que l'espace social n'est pas euclidien. Donc, il ne respecte pas ces règles essentielles de la géographie euclidienne classique. Et donc, il faut, d'une certaine manière, la géographie est une forme de géométrie un peu différente dès lors qu'elle s'intéresse à des calculs de distance et qu'elle veut être opérationnelle. Alors, la mesure de la distance, c'est le deuxième outil, après que j'ai dit qu'il y avait, ou troisième, il y avait espace, distance. Le troisième outil conceptuel, c'est la notion de métrique. C'est-à-dire, comment est-ce que vous mesurez la distance? Et vous avez intérêt, pour comprendre un problème, à la mesurer avec un mode de mesure, c'est-à-dire une métrique qui correspond à la façon dont elle est vécue par les acteurs de votre problème. Je prends un exemple. La distance entre deux lieux dans une ville, pour rentrer dans le sujet, peut être infinie du point de vue psychologique. C'est-à-dire que bon, moi qui suis un urbain de centre de Paris, j'ai très très peur des cités de banlieue, et donc j'irai jamais parce que j'aurais peur de me faire attaquer. Bon. Et ça, d'une certaine manière, ma distance à ces lieux-là, elle est infinie. Donc on ne peut pas considérer qu'elle fait 1 kilomètre, 2 kilomètres. On ne peut pas dire, finalement, vous n'êtes pas très loin de la médiathèque, vous n'êtes pas très loin du conservatoire, parce que, en fait, la véritable distance vécue par les gens, c'est sans doute pas en celle en kilomètres, c'est celle en termes d'accessibilité qui va être mesurée selon d'autres métriques. Alors ça peut être le temps, c'est souvent ça qui joue. Ça peut être le coût, hein, tout simplement on va pas au cinéma parce que ça serait trop cher. Ça va être des métriques qui respectent les réseaux, des métriques réticulaires. Donc en fait il faut faire un grand détour où il faut changer trois fois de train, etc. Donc c'est pas simple, ce qui se ramène à du temps. Ça peut être aussi vu au travers de structures plus matérielles comme les réseaux de transport. Et au final vous devez toujours essayer de comprendre un espace donné comme un espace urbain en termes d'accessibilité à un ensemble de ressources. Et c'est là que on commence à rentrer dans le sujet, c'est-à-dire que dans territoire et représentation, dans le territoire, dans un espace donné, vous avez des ressources qui seront des ressources culturelles, quelles qu'elles soient. Ça peut être des lieux de pratique ou des musées ou même des lieux de rencontre. Et à partir de là, cet accès aux ressources, il est posé les différents acteurs, donc en particulier les usagers, les utilisateurs, se posent la question de savoir s'ils peuvent y accéder ou pas. Et pour savoir s'ils peuvent accéder ou pas, vous avez la distance euclidienne en kilomètres qui est une première donnée, mais vous avez surtout, de manière souvent... ça prime dans la décision et dans la stratégie des acteurs. Vous avez d'autres distances qui peuvent soit les inciter, soit les dissuader. Ils peuvent s'en sentir proches ou pas proches, dans tous les sens du terme, d'un lieu qui peut-être pourtant est proche en kilomètres. Donc ça, c'est fondamentalement ce que va étudier la géographie. Elle va essayer de trouver les bonnes métriques. Elle va aussi essayer de trouver les bonnes échelles. Concept suivant, c'est-à-dire que l'échelle, ça mesure les objets, la taille des objets. Hein. Vous avez systématiquement dans la configuration des espaces, surtout des espaces urbains, des logiques de centre et de périphérie. Si je vais sur cette image-là, on va prendre l'image satellite. Voilà. Cette image-là qui est celle de plus grosso modo de l'Île-de-France. Bon. Vous avez une centralité très forte à Paris. Et puis des périphéries qui sont plutôt situées par là. Mais vous avez donc ça, c'est une analyse globale. Hein. Mais vous avez aussi d'autres échelles. Vous avez une reproduction du schéma. Si je me mets à l'échelle de celle-ci, voilà, vous avez Versailles. Bon, vous avez plusieurs centralités dans Versailles qui est quand même très forte par le château. Mais c'est même pas à l'échelle d'un ensemble de Versailles que ça va jouer. Ça va être sur différentes places ou différents quartiers qui auront chacun leur centre. C'est sûr que la gare des chantiers qui est ici est un centre structurant de ce qui se trouve autour. Il y a la périphérie de la gare des chantiers. Vous avez ici ce quartier-là qui est assez animé. Donc vous avez des rues commerçantes qui créent des centres d'activité. Et donc il faut imaginer que, comme ça, vous avez plusieurs emboîtements d'échelles. On pourrait prendre aussi... alors je vous mets dans la même région... je ne sais pas s'il y a des gens ici de 50 ans en Yvelines, mais à 50 ans en Yvelines, ici, voilà, sur ce petit espace-là, vous avez beaucoup de choses. C'est une très forte centralité. Et autour, vous avez des périphéries qui sont plutôt monofonctionnelles, ici résidentielles, mais là, les zones à la fois résidentielles et de commerce se trouvent ici. Donc, la question de savoir, c'est dans quelle mesure est-ce que les distances d'accès au service fonctionnent à longue portée ou à courte portée, et quelle doit être votre semi d'offres. Et vous devez évidemment adapter la nature de votre offre à l'échelle de ce qu'elle offre. En fait, si vous voulez, c'est aussi le principe des cinémas ou de toutes sortes de choses. Il y a des services auxquels on recourt plutôt rarement et donc qui fonctionnent à grande échelle. On est prêt à faire une grande distance pour les rejoindre. Et puis, il y a des services qui sont plutôt avec un recours fréquent. Et on va faire une distance plus faible pour y aller. Donc, ils vont être solvables, si on parle d'une boulangerie, avec un semi beaucoup plus serré. Donc là, c'est une sorte de loi générale qui fonctionne assez bien, finalement, ou du moins qui peut être une bonne base de départ pour raisonner sur la logique de l'offre. En général, les offres de plus haut niveau sont dans les positions avec la plus forte centralité, donc en l'occurrence sur Paris, qui est un cas très très centralisé, Paris-Centre. Et puis, plus vous êtes dans des offres plutôt banales, plus vous avez un semi et une dispersion tout autour, dans des zones plus périphériques. Ça, c'est pour la notion d'échelle. Cinquième concept clé, la notion de lieu. La notion de lieu, c'est, on la voit souvent comme, on la porte souvent sous l'angle de la matérialité du lieu. C'est-à-dire, on pourrait dire, un lieu, c'est un bâtiment. Nous avons pris l'habitude, toujours dans une logique d'abstraction et en se ramenant à notre principe qui est comment s'organisent les distances dans une société, nous avons l'habitude de dire que un lieu, c'est une sorte d'instant, une sorte d'événement qui va consacrer le fait qu'il va fonctionner sur la base de l'annulation de la distance, éventuellement temporairement. Ici, nous formons un lieu parce que à un moment donné, pour un objectif donné, qui est l'idée d'une conférence, eh bien, nous avons réduit entre nous la distance, qui fait que finalement, que je sois au milieu de vous, ou que je sois ici, ou qu'il y ait une distance plus ou moins importante entre nous, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance par rapport à l'objectif final, qui est d'arriver à ce que l'on se parle, pour que je puisse délivrer mon message. Cette idée de lieu pris abstraitement comme ça peut trouver des échos dans le fait que quand un lieu se reproduit tout le temps au même endroit, eh bien au final on fabrique un objet bâti pour ça, une salle de conférence ou quelque chose comme ça. Mais vous pouvez très bien avoir à la constitution de lieux, des lieux temporaires, des lieux éphémères par le squat d'un banc public dans un jardin public. C'est-à-dire une sorte de détournement d'un objet de mobilier urbain pour qu'il s'y passe quelque chose. Et la culture urbaine, alors là, mon collègue sociologue sans doute pourra nous donner beaucoup d'exemples sur la question et nous en parler plus précisément, mais la ville est quand même faite en grande partie de détournement de ces objets-là, où vous pouvez avoir, où il suffit de sortir et de voir ce qui se passe sur le Forum des Halles, bon, ben, vous avez des gens qui passent beaucoup de temps et qui se retrouvent là, qui réduisent la distance entre eux pour faire quelque chose. Je pense ne serait-ce qu'aux gens qui font de la danse dans la cour carrée au Forum des Halles, où il y a, vous savez, il y a des... Je sais pas comment ça s'appelle, cette... Moi, j'appelais ça du smurf quand j'étais jeune. Mais, ouais, breakdance, ouais, voilà. Les gens qui tournent sur la tête et tout. Bon, là, ils fabriquent un lieu et ils utilisent un lieu qui, a priori, n'est pas fait pour ça, mais ils le détournent. Et c'est important de comprendre quel rapport il peut y avoir entre les lieux comme ça produits par des pratiques et les lieux qui sont mis à disposition. C'est-à-dire que vous avez toutes les relations possibles. Vous avez une adaptation efficace, c'est-à-dire effectivement il y a des lieux pour ça, comme d'autres choses. Et puis vous avez des fois le détournement. Vous avez aussi l'inadaptation totale. Vous avez tous les cas possibles. Et je dirais que d'une certaine manière, l'efficacité d'un aménagement urbain par rapport au développement culturel d'une manière générale, c'est d'autoriser beaucoup de pratiques. Parce que c'est aussi cette logique du hasard qui va prendre le plat, et cette logique de la créativité et du détournement qui est à l'origine du travail culturel. D'ailleurs, ça me rappelle aussi ces gens qui sautent d'immeuble en immeuble. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'art, mais il y a quand même aussi cette idée de créer une culture, un savoir-faire. Donc voilà, au final, les quelques concepts de base qui me servent à aboutir à cette idée que en géographe, et peut-être vous, si vous voulez vous approprier ces concepts, vous devez vous dire comment est-ce que les acteurs d'un problème gèrent les distances. Mais avec une conception un peu riche de la distance qui ne peut pas se résumer à savoir à combien de kilomètres on est les uns des autres. En prenant vraiment en compte éventuellement des distances psychologiques qui peuvent constituer du coup des obstacles qui ne seront jamais franchis parce qu'il faut résoudre le problème autrement. Donc maintenant, le territoire. Donc j'explique ce que c'était que pour les géographes l'espace. Un territoire, c'est une catégorie assez particulière de ça. En tant qu'acteur, un certain nombre d'entre eux, les institutionnels, sont en charge de territoire. C'est-à-dire que leur problématique est la suivante. Dans un périmètre donné, qui est tracé de manière plus ou moins strict, ça peut être un périmètre administratif, une région, un département, une ville, une circonscription, pour un élu par exemple, ils doivent être en mesure d'édicter des règles de fonctionnement de ce lieu. Ça peut être des règles pour les urbanistes, dans l'optique d'urbanisme, des règles de construction, et puis ça peut être des règles de comportement, ça peut être des règles d'occupation du sol, bon, toutes sortes de règles, règles de vie en société, on va dire au sens le plus général du terme. Et ça s'oppose à une autre catégorie d'acteurs dont le principe c'est avec qui je me relie, c'est-à-dire comment je constitue un réseau. Les acteurs territoriaux, sont ceux qui sont en charge d'un territoire. Ils ont un périmètre dans lequel leur processus fondamental, leur action fondamentale porte sur l'établissement des règles. Dans règles, je peux mettre beaucoup de choses. Je peux aussi mettre donner des subventions. À qui je donne des subventions? Je suis dans mon territoire et je peux aider tel ou tel parti, tel ou tel acteur. Tel territoire peut être attractif parce que les gens y viennent parce qu'ils savent qu'ils vont y trouver justement de l'aide. Hein, ça c'est un cas assez général. Ça explique un certain nombre de migrations, mais ça peut aussi fonctionner, y compris on pourrait imaginer une logique de migration culturelle ou de localisation. Et puis ça marche aussi pour les entreprises. Vous savez, les zones franches urbaines par exemple, où on a des dégrèvements d'impôts quand on se localise dans certains territoires, c'est-à-dire dans des espaces qui sont bornés et dans lesquels il y a une règle particulière qui est avantageuse par rapport à ce qu'il y a autour. Donc c'est l'idée de contrôle et de règles. L'idée de contrôle qui aussi est de règles qui rentre quelque peu en conflit ou en, qui pose une question sur son rapport à la créativité et à la création. Moi je me rappelle, quand j'ai fait ma thèse, j'avais eu des observations comme quoi j'avais une grande créativité typographique. Ce qui veut dire en fait que je faisais des fautes d'orthographe, vous voyez. Donc l'orthographe bon, voilà. Donc ça pose un problème effectif de rapport entre la règle, la norme et la création. Deuxième idée forte associée au territoire, c'est l'idée d'identité. Ça s'articule avec les ressources. L'identité, c'est l'idée d'un destin commun, l'idée d'une décision de chacun pour les autres, de mutualisation, de mise en rapport, ce qui explique la nécessité d'un bornage. Hein. C'est-à-dire qu'un bornage plus ou moins net, mais le principe du bornage du territoire par une frontière, c'est le fait que quand vous êtes dedans, vous êtes soumis à la loi de tous. Alors des fois, cette loi, elle est démocratique, des fois, elle ne l'est pas, mais quoi qu'il en soit, soit parce que soit le territoire, il est défini par ceux qui l'habitent, soit il est défini par un despote ou par un potentat quelconque, mais quoi qu'il en soit, l'idée d'identité, c'est bien l'idée d'identique, c'est l'idée d'être un commun, et que fondamentalement, si on est conscient du fait qu'au sein des territoires, il y a certains espaces qui sont plus ou moins plus faibles que d'autres, et ben les plus riches acceptent de prêter aux plus pauvres, ou acceptent de donner aux plus pauvres, acceptent un certain partage. Et ce partage doit se faire dans un espace qui est défini. Donc, d'où l'idée de ce bornage. Et ça nous amène assez directement à l'idée donc du coup de politique, ce qui fait qu'on associe généralement la question politique à la question du territoire. Ce qui renvoie à la question des politiques culturelles, évidemment, au sens le plus noble, enfin il n'y a quasiment que celui-là, du mot politique. Alors face à cela, je l'avais très légèrement sous-entendu il y a quelques instants, on a une logique de la création, une logique de l'art, une logique de la culture, ou d'une des cultures, j'en distingue trois, qui elle fonctionne pas comme ça. Ça s'accommode assez peu, sauf dans des territoires historiquement funestes comme ou des systèmes comme le territoire de l'URSS. Enfin, c'est vrai que les artistes sont assez peu enclins à marcher dans la combine de l'art d'État. Bon. Ce que, du point de vue du géographe, on va rapporter à la logique territoriale telle qu'on l'a évoquée tout à l'heure. Donc effectivement, ce qui ne colle pas là-dedans, c'est que la créativité ne fonctionne pas sous une logique de contrôle, une logique de règles, mais fonctionne plutôt sur deux autres éléments, enfin deux autres types de fonctionnement qui ont une expression géographique ou que le géographe va caractériser d'une certaine manière. C'est d'une part le réseau, et d'autre part, ce qu'on appelle la serendipity, ou serendipité, c'est serendipité, serendipity, ou te, qui est, pour dire les choses assez simplement, le heureux hasard, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Le réseau, la réticulation, c'est l'opposé du territoire. Les acteurs réticulaires, les acteurs qui fonctionnent en réseau, leur problème avant tout, c'est de savoir avec qui se relier pour produire. Parce que, je ne l'ai pas dit au début, mais l'enjeu fondamental du social, pour faire société, il faut réduire la distance, parce que la distance quelle que soit sa mesure, est un obstacle à l'interaction sociale. Or, la société marche par l'interaction, par l'échange, par la rencontre des diversités, à ceci près qu'il faut qu'effectivement il y ait une compatibilité. Donc il y a une logique de médiation. Mais dès lors qu'on arrive à rendre compatible une différence, c'est-à-dire que c'est pas un dialogue de sourds, dès lors qu'on sait gérer la différence, gérer l'altérité, on a un début de socialisation et de société au final. Donc la réduction de la distance qui se fait éventuellement soit par l'idée d'appartenance commune, c'est le territoire, soit par la logique de la réticularité, c'est-à-dire du lien sélectif, y compris en passant par-dessus le voisin. On n'a pas forcément de destin commun avec son voisin. Et là, on touche à un point très important, c'est que le fait de ne pas avoir de destin commun avec le voisin, le fait de ne pas le connaître et de ne pas vouloir le connaître, c'est quand même l'attribut des villes. C'est ce que certaines personnes en arrivant en ville ou qui n'ont pas été acculturées à la ville disent. En gros, ils reprochent à la ville, on ne connaît pas son voisin. Mais la plupart des urbains, eux, ils aiment bien ça. Ils préfèrent cet anonymat. Ils recherchent justement, ils ont en horreur l'idée qu'on puisse savoir ce qu'ils font, à quelle heure ils font, et cette espèce d'auto-surveillance qui est quand même la logique de la vie rurale de village. Pour caricaturer, mais c'est quand même cet eutropisme qu'il faut bien avoir à l'esprit. C'est aussi plus de communautés dans la vie villageoise archaïque, et pas forcément en France, mais éventuellement ailleurs, dans d'autres pays encore très ruraux. Et de l'autre côté, l'individualité, l'individualisme éventuellement, qui peut aussi être un défaut, bien entendu, qui peut poser un problème. Mais toujours est-il que le problème de l'urbain, c'est la question de la réticularité, c'est-à-dire quel est mon réseau de fonctionnement. Et là, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, finalement, la ville, c'est des réseaux avant d'être un territoire. Alors à partir de quand ça devient un territoire ? À partir du moment où l'enchevêtrement des réseaux est tellement dense, où la superposition de tous les réseaux des individus fait qu'il y a des logiques de redondance. Si vous voulez, si je dessinais un réseau sur une carte, et bien j'aurai un enchevêtrement. À partir du moment où cet enchevêtrement est extrêmement dense, il y a constitution de ce qu'on appelle un territoire. Parce que, en fait, finalement, la multi-appartenance à différents réseaux fait qu'on partage un destin commun et des intérêts communs, et donc on a une identité commune. Voilà comment est-ce qu'on va basculer sur le territoire. Et donc voilà comment est-ce qu'on peut accepter que le réseau, qui est un moyen d'accéder à des ressources, accéder à l'autre, l'autre est une ressource pour chacun, il peut devenir régi par la communauté à partir du moment où, justement, il y a cette logique de redondance et de compréhension de l'objet commun. Donc ça veut dire que finalement, vous voyez cette image-là, qui est une image très territoriale de la ville, c'est-à-dire que vous arrivez à en délimiter les contours à peu près par la tache grise qui est là. Enfin, moi, je l'ai gris, mais c'est gris vert ça, sur l'écran. La ville, ça serait déjà un peu plus ça. Vous avez donc les régions parisiennes, c'est un peu plus ça, c'est-à-dire certes cette tache blanche qu'on a autour qui est l'agglomération, mais vous voyez qui va chercher quand même un peu plus loin par cette espèce de réseau de radicelles d'autoroute. Et puis je pourrais rajouter des choses intéressantes dessus. Alors on pourrait même, est-ce que ça fonctionne, voilà, ça, c'est à peu près la même chose. Là il y a une logique de hiérarchisation, mais revenons là-dessus. Et puis je pourrais très bien mettre les transports en commun. Voilà. Donc ça, c'est une image beaucoup plus fidèle de ce qu'est l'agglomération parisienne et l'aire urbaine de Paris que la simple tache blanche qui serait éventuellement la partie bâtie. Et vous voyez que ça va loin, puisqu'on se retrouve à aller Poissy. Bon, là, il n'y a pas tout, mais on peut aller jusqu'à Mantes qui se trouve ici, hein. Mantes-la-Jolie. Et en gros, c'est la fameuse question de savoir quelles sont les limites du Grand Paris. Ben, les limites du Grand Paris, c'est en gros l'Île-de-France, d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle en géographie, enfin en statistique, on appelle ça l'aire urbaine. C'est-à-dire l'aire urbaine, c'est l'ensemble, c'est la masse de population, enfin la géographie de la population qui fonctionnellement travaille ensemble. Donc, c'est la ville fonctionnelle. Donc la tension qui est à l'œuvre là, c'est tout simplement de savoir, certes, mes ressources peuvent être lointaines. On voit par exemple que le RER A va quand même assez loin, là. Bon, il dépasse de la partie vraiment dense, où il y a un enchevêtrement des réseaux. Mais jusqu'à quel point j'accepte d'intégrer dans le territoire commun, où il va y avoir une logique politique, des ressources qui sont vraiment tellement loin qu'on peut se demander quel est leur rapport et quel est le destin commun. Bon. L'avantage, c'est comme on a un gradient de densité, plus on va chercher loin, moins on gagne de gens. Donc on a moins de problèmes. C'est cette logique d'échelle. Et la densité va jouer justement pour arriver à situer une zone où il y a effectivement une logique territoriale qui peut s'imposer et où les uns peuvent accepter, pour parler de manière plus prosaïque, peut accepter de payer pour les autres ou d'aider les autres. Mais c'est l'enjeu fondamental qui est de savoir comment est-ce qu'on va transformer cet enchevêtrement de réseaux sociaux en un territoire dans lequel on va pouvoir faire émerger la politique, le politique en général. Et donc ça, c'est la ville. C'est la question qui va se poser à des acteurs politiques, par exemple, ou des acteurs décisionnaires en matière de politique. C'est comment est-ce que on va choisir d'aider tel ou tel lieu sur la base, par exemple, d'une politique urbaine. La ville, pour la définir, telle que le fait le géographe, c'est une alliance de densité, un mélange de densité, de diversité et de sérentipité. Donc j'y viens, c'était le deuxième élément qui est le facteur de culture, c'était cette idée de heureux hasard. Densité, diversité, c'est mettre pour parler très simplement, c'est mettre des gens ensemble, des gens qui ont des choses à se dire, les mettre en contact. La densité, c'est la mise en contact, c'est la réduction des distances moyennes. Et la diversité, c'est supposer que s'ils sont différents, ils ont quelque chose à échanger. Mais en plus, il faut essayer de faire en sorte que la configuration les aide à échanger, que tout ne soit pas programmé. C'est l'idée, en gros, de déprogrammation. Et ça, c'est très important, c'est ce que traduit le principe de la sérentipité, c'est que rien de ce qui se crée de nouveau se crée dans la prévision et dans la programmation. Vous ne pouvez pas programmer quelque chose que vous ne connaissez pas. La recherche, ça se fait pas dans la programmation. Vous ne savez pas ce que vous allez trouver avant de le trouver. Et ça, c'est une forme de traduction. La recherche, c'est typiquement une expression de la sérentipité. Un programme de recherche dans lequel on sait ce qu'on va trouver n'est pas réellement un programme de recherche. Et l'art, la culture, la production, la création culturelle, ça relève aussi de cette même logique-là qui est caractéristique de la ville. Une ville dans laquelle tous les trajets sont prévus à l'avance est une ville qui fonctionne beaucoup moins bien qu'une ville dans laquelle vous allez rencontrer des gens au hasard, et c'est les rencontres au hasard qui vont faire que vous allez avoir une véritable valeur ajoutée. C'est le principe des salons, c'est le principe des places publiques, c'est le principe de la déambulation en ville, c'est même le principe de la rue par rapport à la route. La route, c'est un lieu où on se déplace d'un point à un autre, on regarde pas ce qui se passe aux alentours. La rue, c'est quelque chose où il va y avoir des événements permanents au fur et à mesure du déplacement. Donc dans le parcours urbain, on va arriver à entrer en interaction avec des choses qu'on n'avait pas prévues. C'est le principe de la rue commerçante, hein, vous avez des vitrines. Le principe de la vitrine, c'est l'illustration de la sérentipité, c'est un dispositif qui permet de créer du hasard, parce que quand vous allez tous les matins de la gare où vous arrivez de votre banlieue à travailler à votre bureau, vous marchez pendant 10 minutes dans une rue, ben vous passez 10 fois devant une robe, hein, mesdames, et puis la 11e fois, vous l'achetez. Ça peut être comme ça qu'on peut illustrer la valeur ajoutée de la ville, c'est-à-dire ce qui va faire gagner de l'argent aux vendeurs de robes, c'est ce hasard-là. C'est pas le fait que vous avez décidé d'aller acheter cette robe parce que vous l'avez vue, je ne sais pas où, on vous en a parlé. Quoique ça illustre la notion de réseaux sociaux. Et cette idée de hasard et de fonctionnement urbain, elle se retrouve dans l'histoire urbaine elle-même. Puisque ce qui a créé les villes historiquement, c'est-à-dire les premières villes issues du monde néolithique, sont avant tout des lieux où se localisent, je dirais, le pouvoir spirituel, les lieux de culte, donc tout ce qui n'a pas besoin d'être localisé par rapport à la terre et par rapport à la production. Et ensuite, c'est là aussi, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui quand on va voir les villes, les anciennes villes mayas dans le Yucatan. C'est on va fondamentalement voir ce qui reste de la ville de l'époque, c'est-à-dire non pas la partie productive agricole, mais la partie cultuelle, et qui est aussi ce que l'on reconnaît comme des éléments culturels. Alors après, il y a aussi la ville qui est une place de marché, c'est une deuxième étape. Un lieu d'échange, une périphérie du centre qui est la campagne. Puis il y a la logique du lieu de pouvoir, le pouvoir temporel, la logique du lieu de production qui commence aussi à partir du moment où on met des enclaves au sein de la ville, les enclaves industrielles, on commence à casser la ville parce que on rend impossible la circulation d'un bout à l'autre, d'une partie à l'autre de l'usine. Donc, en morcelant la ville, on réduit ce qu'on appelle son degré d'urbanité. Or, le principe de la ville, c'est de maximiser l'urbanité. Et c'est aussi, à part un lieu de production, ça devient aujourd'hui un lieu de vie. C'est-à-dire, c'est le lieu de vie majoritaire de l'humanité. Vous savez que, selon l'ONU, le taux d'urbain a dépassé 50% aujourd'hui. Donc, il faut raisonner, encore dans cette logique de vie quotidienne, il faut raisonner par rapport à un environnement naturel de l'humanité qui est aujourd'hui la ville et qui est donc ce lieu aussi qui est celui de la production. À partir de là, vous avez donc, et ça sera mon avant-dernier point, enfin c'est lié avec le dernier, vous avez une question qui se pose qui est, si vous êtes décideur territorial, donc ça veut dire en charge au niveau étatique, ou en charge au niveau régional, ou en charge au niveau même local ou départemental, pour le cas français, d'une politique culturelle, ou de favoriser la culture, de favoriser la création, vous êtes de facto en charge d'une politique urbaine. Ce qui n'est pas, ça c'est un premier point très important, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas de l'organisation des pouvoirs. Il y a les urbanistes d'un côté, les ponts et chaussées, et puis, il y a les cultureux de l'autre. C'est pour ça que, je sais plus qui c'est vous qui disiez ça. Enfin, je ne suis pas du tout du monde de la culture. C'est comme ça qu'on les appelle. Ceux qui en sont extérieurs, c'est un monde qui dans l'organisation des pouvoirs, a une niche, a un fonctionnement avec une forme d'autonomie, mais qui n'est pas explicitement en charge de problèmes urbains, alors qu'on pourrait penser que, justement, un de ces domaines d'excellence dans l'action territoriale, c'est justement la question urbaine. Donc la culture là-dedans, comment est-ce que dans l'aménagement et dans l'urbanisme la culture joue-t-elle? Comment est-ce que un département doit gérer son aménagement, la configuration de cet espace départemental avec la culture? Ben vous avez là en gros deux axes qui se croisent pour donner quatre tendances politiques. En quatre options. Le premier axe, vertical par exemple, ça consiste à se dire qu'il y a un ancrage culturel, un développement de l'activité culturelle, soit par rapport à une singularité locale, par exemple, je sais pas moi, la vallée des peintres en Val d'Oise, enfin des impressionnistes. Donc c'est là et c'est pas ailleurs. On peut pas généraliser. C'est indépendant complètement de la taille des lieux en termes de population. C'est ici que ça s'est passé. Ce sont des lieux historiques et c'est ça qu'on va promouvoir. Qu'on connaît d'exceptionnalité. Et puis, à l'opposé de ça, il y a l'idée que la culture comme moyen de socialisation, elle est son intensité, la création, la relation sociale basée sur la culture, elle est, proportionnelle en intensité à la masse de population disponible qu'elle concerne. Donc ça veut dire que vous avez d'autant plus d'intensité culturelle que la population urbaine est importante, que la ville est importante. Donc vous avez d'un côté une logique de hiérarchisation urbaine, et puis donc ça c'est la culture au sens le plus comme outil de fabrique de la ville, comme un des éléments de cette interaction, ce moyen de réduire la distance, y compris temporellement, donc les lieux de culture, etc. Cette logique de hiérarchie urbaine aussi. Et puis, de l'autre côté, cette logique d'exceptionnalisme qui dépasse, qui sont complètement transversales ou qui n'ont pas de rapport avec la hiérarchie urbaine. Et puis, de l'autre côté, vous avez une logique, donc c'est le deuxième axe, vous avez une logique d'aménagement ou de soutien des pratiques existantes, là où elles sont localisées. Et puis, là où elles sont instituées, donc vous renforcez ce qui existe, vous donnez une prime à ce qui a été déjà produit par les sociétés, et puis de l'autre côté, un aménagement volontariste qui consiste à équilibrer ou à compenser les manques. Quand vous avez ces deux axes-là, évidemment, ils ne correspondent pas forcément à la même notion de culture. Vous avez au moins trois. Vous avez, alors, je ne vais pas vous l'apprendre, vous avez sans doute des visions différentes, mais vous avez la culture au sens du culturel, qui est plutôt une notion d'universel. Vous avez la culture au sens de les cultures, donc c'est plutôt quelque chose de vernaculaire et de local. Et puis vous avez la culture comme référent normatif, qui serait la culture avec celle du ministère, avec un grand C, où c'est l'orthographe, ou ma créativité typographique. Et là, c'est la question de légitimité, mais ça se focalise là sur la question des territoires. C'est-à-dire que, évidemment, le ministère de la culture, il a une action qui est de soutenir des cultures qu'il reconnaît. Donc, il va avoir du mal ou pas du mal, ou il va avoir se poser la question souvent de savoir s'il doit intégrer les cultures vernaculaires ou les questions culturelles dans son champ d'action, et de savoir s'il va créer des lieux pour ça ou favoriser le développement culturel de ce côté-là. Donc, si je prends un exemple pour reprendre mes deux axes, on peut considérer... Enfin, on peut observer, je l'ai fait récemment sur la question des Yvelines, que certaines pratiques culturelles, enfin, chaque pratique culturelle a une géographie précise. Il y en a qui respectent une géographie qui respecte très strictement la hiérarchie urbaine, d'autres qui sont très centrés sur une région et pas une autre, parce que c'est là que ça se passe. Parce qu'il y a un développement culturel particulier, je prenais le cas des peintres. Il y a des actions culturelles, enfin des activités culturelles dont on voit qu'elles visent l'excellence, une excellence éventuellement mondiale, un niveau de qualité, conservatoire de très haut niveau ou école d'art particulière, et puis d'autres géographies qui révèlent plutôt l'idée que la culture est un prétexte à la rencontre. Dans certains cas, pour parler un peu plus vulgairement, si vous voulez, pour jouer du cornet à piston, soit on peut être un des meilleurs musiciens spécialistes de cornet à piston, un plus grand virtuose de France, voire du monde, et on va sans doute exercer, peut-être enseigner, dans un lieu particulier qui va être quelque part, souvent plutôt dans une grande ville, qui a une forte tradition culturelle. Pour les Yvelines, ça pourrait être Versailles, mais si on peut aussi jouer du cornet à piston pour retrouver le dimanche les copains à la fanfare. Et là, on s'en moque complètement de jouer juste ou faux. C'est pas du tout la même chose. Mais si vous inversez, du coup, et vous dites, qu'est-ce que ça fait si je subventionne le cornet à piston? Eh bien, si c'est là, selon, dans une région donnée, si c'est plutôt une logique d'excellence ou plutôt une logique de socialisation, vous n'allez pas agir sur les mêmes territoires. Alors à vous de savoir, après, s'il s'agit de diffuser une pratique, c'est-à-dire de rééquilibrer, c'est souvent le cas des bibliothèques, on essaie de mettre à disposition la lecture publique pour tous les territoires, ou est-ce que vous êtes plutôt dans une logique de renforcer une position acquise, c'est-à-dire une position d'excellence en particulier sur un instrument ou sur à peu près n'importe quoi, et vous devez donc faire des choix et bien comprendre, faire une analyse géographique du territoire que vous avez en charge pour savoir si vous êtes dans un des quatre cas que je viens d'expliquer, c'est-à-dire respect de la hiérarchie urbaine ou exceptionnalité, point isolé, et puis de l'autre côté, logique de diffusion de la culture, d'accès pour tous à la culture, à la création culturelle, donc d'accessibilité, ou plutôt renforcement de l'excellence. Voilà en gros ce que, en première analyse, je peux dire, après avoir regardé quelque chose, j'ai fait récemment une étude justement sur la géographie de l'aide culturelle dans les Yvelines, ce que un géographe peut dire de ces questions culturelles. Je passe sur toute la question des aires culturelles, des cultures vernaculaires, etc., qui fonctionnent à une autre échelle, mais ce n'est pas non lié, bien sûr. Les logiques migratoires instillent des pratiques culturelles dans des territoires qui n'ont pas forcément les mêmes au départ. Donc, il peut y avoir d'autres problématiques à soulever.
Merci beaucoup. Et en plus, vous avez tenu les délais, c'est parfait. On va ouvrir peut-être un certain nombre de questions autour de ça. Je trouve que l'approche que vous avez eue permet effectivement d'enrichir assez fortement un certain nombre de questions qu'on s'est posées lors de séminaires et à les positionner différemment. Notamment, je trouve que la question... C'est intéressant de poser la question d'analyse géographique sur les questions de démocratisation culturelle, par exemple, et sur ces questions de distance, et pas uniquement ce qu'on maîtrise bien, qui sont les distances symboliques, mais y compris... en termes d'organisation spatiale des territoires. Et ça permet bien de nous éclairer dans les enjeux, je trouve. Peut-être des questions, des réactions, des demandes complémentaires, ou est-ce que le repas fourni à midi a permis à chacun de siester cet après-midi? Ou alors la question, la présentation était...
Par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce que ça pouvait... les rebonds, comme dirait Yacine, c'est une phrase que vous avez dite que j'ai trouvée vraiment... et qui m'a tout à fait rappelé la réflexion de David Gis sur son intervention hier, et où il parle de la logique de la création ou de la créativité, qui pose la question avec qui se relier pour produire. Donc on se retrouve exactement avec ce qui nous a mis en place David, c'est-à-dire qu'effectivement quand tu fais de la création contemporaine, ta première question c'est avec qui te relier pour pouvoir produire. On retrouve exactement la même réflexion, voilà, et la dialectique bien entendu entre celui qui est dans le lien sélectif, qui n'est pas dans le lien commun, et la dialectique qu'il y a avec celui qui est responsable de son territoire et qui est dans justement, lui, le commun et la règle, etc. Donc, on retrouve à peu près les mêmes termes. Peut-être l'approche, la géographique, ce qu'elle ajoute, c'est que tout d'un coup, on prend nous-mêmes une distance par rapport à nos pratiques, je trouve, parce qu'elles sont énoncées différemment. C'est-à-dire que la façon même dont elles sont énoncées, elles enlèvent de l'affect. Enfin, je ne sais pas comment dire ça autrement. C'est-à-dire qu'elles désaffectisent les différents propos qu'on peut avoir. Et du coup, bon, ben voilà. Ça entraîne... Ce qui serait intéressant maintenant... c'est de faire les enjeux géographiques de chacun.
Oui, c'est ça.
Par rapport à son positionnement. Je pense que si on fait les enjeux de structure, de proximité ou de fédération d'éducation populaire, ou ces enjeux sur les territoires, si on fait les enjeux de la MJC à Mantes-la-Jolie, et là, effectivement, on aura des dessins, enfin, on verra sur quoi ça porte, et là, effectivement, on pourrait peut-être mieux... poser cette question qu'on a du mal à nommer, pris justement par, entre autres, nos affects, c'est le fait qu'on est sur des territoires différents et qu'est-ce qu'on peut avoir en commun, quoi, sur ces territoires-là. Peut-être que c'est une autre façon de poser la question et de trouver des territoires où on se retrouve, des réseaux communs, où on se retrouve absolument en commun, et je suis sûre qu'il y en a.
Mais je peux la poser comme ça.
Ah, c'est enregistré. Il y a une chose qui a disparu dans votre propos quand vous êtes passé à la question des politiques culturelles, c'est cet heureux hasard. Et je voudrais savoir, quoi, par rapport à votre schéma que je trouve très juste et qui me rappelle un peu ce que j'ai raconté hier, je parlais de ville créative et ville participative, ça rejoint ce que vous exprimez. Mais j'aimerais bien que vous reveniez sur cette question du heureux hasard, mais au regard des politiques culturelles. Parce qu'en fait, l'urbanité, ce qui est intéressant, si j'ai bien compris, c'est le fait que l'heureux hasard, c'est l'urbanité crée des espaces, ou crée des territoires, enfin, crée des
configurations spatiales.
Des configurations spatiales, une place, un endroit, sur lequel on pensait qu'il se déroulait tel type de socialisation, puis en fait, il s'en déroule une autre. Ou il s'en déroule pas. C'est-à-dire, on crée une place superbe, et puis en fait, rien ne se passe sur cette place-là. Et ça se passe ailleurs. Est-ce que, de la même façon, on pourrait... concevoir une politique culturelle qui créerait ces espaces d'heureux hasard où, en fait, on ne pourrait pas déterminer au préalable, ou au contraire, on déterminerait cet heureux hasard à cet endroit.
Alors, c'est la quadrature du cercle, mais ça, c'est possible. Il y a beaucoup d'idéologies à combattre, justement, sur le sujet. Ce que vous dites, bon, pour l'histoire de la sérendipité, du heureux hasard. L'urbanité, c'est les trois. C'est la densité, c'est-à-dire le rapprochement, la diversité, rapprocher des choses différentes. Et puis, il y a un supplément. C'est-à-dire que, il y a deux écoles sur le sujet. Moi, je suis du tenant du fait que les deux ne suffisent pas et les deux ne servent pas à produire ce hasard. Il y a une logique d'organisation derrière. Si vous, Le problème, c'est que si je dis organisation, c'est pour ça que je dis configuration, si je dis organisation, je dis un peu le contraire de ce que je veux. C'est-à-dire que le principe de l'organisation, c'est qu'on laisse pas se place au hasard. En fait, c'est qu'il y a une logique de décalage à 30 degrés du principe, c'est-à-dire qu'il y a trois, si vous voulez, le principe de l'analyse d'intelligence spatiale, ça consiste à dire que la réalité est faite d'objets, d'acteurs et d'environnement. Les objets, ça peut être des organisations. Les acteurs, c'est des individus qui ont une intentionnalité d'action, une stratégie. Et des environnements, c'est ce qui les contient. La ville est souvent conçue comme un environnement, pas beaucoup comme un objet, et pas beaucoup comme un ensemble d'acteurs. Si vous faites l'intersection entre, vous faites un triangle, bon, objet, acteur, environnement, et puis vous regardez ce qu'il y a au milieu des termes, vous allez trouver trois autres termes, qui sont les lieux, entre les environnements et les objets. Vous allez avoir, tout ça c'est très abstrait bien sûr, vous allez avoir des ressources sociales entre les acteurs et les environnements, c'est-à-dire que les acteurs ce sont des individus, mais il faut quand même qu'ils soient fédérés en groupe d'une manière ou d'une autre, ou avoir une forme de... Enfin, ils sont aussi eux-mêmes, ils constituent des environnements, par exemple un environnement culturel porté par un ensemble d'acteurs. La culture c'est pas porté, enfin chacun sa propre culture, mais il faut en additionner plusieurs pour produire quelque chose qui ressemble à une culture, par exemple au sens classique du terme les cultures dans le monde. Et puis à l'intersection entre les objets qui peuvent être des organisations et les acteurs, au milieu vous avez ce que moi j'appelle les configurations. C'est-à-dire c'est pas parce que vous avez un organigramme dans une entreprise que ça marche tel que l'organigramme. Il y a des gens qui passent au-dessus de la tête des autres, il y a des relations horizontales à même niveau, etc. Il n'y a pas toujours besoin, pour parler au service d'à côté, à même niveau, de passer par le chef de service, etc. On détourne les organigrammes. Donc la véritable question, c'est de savoir si... la question que vous posez, c'est savoir si une politique culturelle qui s'exprime souvent dans les termes de l'organisation peut avoir aussi un volet configurationnel qui va laisser une place au hasard. Bon. Et d'une manière générale, les entreprises les plus efficaces, les villes les plus efficaces, c'est-à-dire les plus créatives, les plus innovantes, etc., ou les sociétés les plus innovantes, sont celles qui sont capables de mettre en place une organisation sociale qui, justement, laisse la place au hasard. La ville la plus efficace, c'est celle qui a le plus d'espace public. Relativement, ça ne veut pas dire qu'il faut que de l'espace public, mais l'espace public, c'est ce lieu typique, particulier, c'est la configuration spatiale qui permet cette production de la rencontre au hasard. Je prends la rencontre au hasard, c'est vrai, ça paraît idiot, mais finalement, si vous regardez ce que font les gens dans une ville par rapport à ce qu'ils font dans une ville qui est de mauvaise qualité, dans une ville de bonne qualité, il y a plein de choses qu'ils n'avaient pas prévues qu'ils font à longueur de journée. Et le fait que dans la manière de gérer la distance soit intervenu aujourd'hui, par exemple, le téléphone portable améliore encore la ville. Donc, j'avais travaillé à l'époque sur Ville et NTIC il y a quelques années. C'était la grande mode d'expliquer qu'en gros, le téléphone portable et Internet, c'était la fin des villes. Mais en fait, pas du tout. Parce que, qu'est-ce que c'est? Alors, les choix des gens sont des choix, les choix des acteurs, ce sont des choix doubles, et deux fois doubles, quand ils gèrent leur distance. Et soit ils ont des choix de localisation, c'est-à-dire je vais me mettre à tel endroit pour être dans un environnement donné. Soit je vais avoir une logique de réseau, de communication, qu'elle soit par la mobilité ou par la télécommunication. Ça, c'est le choix. Mais une fois que l'ensemble des acteurs a fait un choix, il résulte un objet lourd, un objet compliqué. Là, on peut parler d'une ville, par exemple, mais ça peut être un espace migratoire ou Internet. Et cet espace complexe, on peut l'analyser de manière synthétique en disant que c'est un cocktail de trois façons de gérer la distance. La coprésence, c'est qui structure les villes, hein. La télécommunication, ce qui peut structurer des espaces comme Internet, et la mobilité, ce qui peut structurer un espace migratoire de circulation, par exemple, entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, et puis l'Europe. Bon. Les villes, ce sont... Alors, c'est une terminologie barbare, on pourrait dire que c'est... ça a été défini par un géographe qui s'appelle Jacques Lévy comme des géotypes de substances sociétales fondées sur la coprésence. Ça veut dire que c'est un peu compliqué, mais ce sont des géotypes, c'est-à-dire des types d'espaces. Bon, ben voilà, il y a plusieurs types d'espaces. Il y en a un qui s'appelle la ville. De substance sociétale, c'est-à-dire que c'est une société complète avec toutes les fonctions, fonctions productives, politiques, organisationnelles, etc. Et puis, fondée sur la coprésence, ça veut dire que la télécommunication et la mobilité sont asservies à la coprésence. Le but d'une ville, c'est pas de se déplacer en bus, mais le bus permet la coprésence. Et au bout d'un moment, la croissance de la ville, si elle est mal maîtrisée, peut générer par étalement un taux de mobilité tellement important qu'on finit par être pris dans l'embouteillage la plupart du temps. Bon, donc il y a une façon de concevoir les villes là qui est qui est importante. Enfin, toujours est-il que quand on fait des choix urbanistiques, on va choisir ou pas de faire de la place à de l'espace public, et on va choisir ou pas, implicitement ou pas, de donner sa chance à la rencontre au hasard. Un exemple idiot, mais qui est pas plus tard qu'hier. J'étais dans le métro, je rentrais chez moi, on était à la station Saint-Placide sur la ligne 4, on montait vers Montparnasse, enfin, parce que la rue de Rennes monte, mais c'est vers le sud. Enfin, ça dépend comment on met la carte. Et puis, il y avait un couple. J'étais assis, il y avait un monsieur en face en biais, et puis en face de lui, il y avait un couple qui était en train de chercher sur un guide touristique une information. Et ils parlaient anglais. La personne en face d'eux leur demande s'ils cherchent quelque chose. Donc déjà, un rapport de sociabilité. Là, déjà, il y a un hasard, parce que dans un système de... où mentalement, on peut pas parler à l'étranger, où il y a une logique de l'étranger et l'ennemi. Bon, bah, vous vous adressez pas à l'inconnu et vous le laissez galérer en disant, tiens, il ira où il ira. Bon. Donc, le gars leur demande, vous cherchez quelque chose de particulier. Et puis là, il dit, oui, on voudrait savoir, il faut descendre parce qu'on sait qu'à Montparnasse, il y a des restaurants, mais, on sait pas bien où aller. Donc, déjà, premier élément intéressant, c'est qu'ils sont allés à une station de métro sans savoir où ils allaient manger. Donc là, il y a du hasard. Bon, c'est la configuration urbaine qui permet ça. J'arriverai au politique culturel après. Excusez-moi, je fais un détour. J'essaie de bien expliquer la chose. Donc premier élément de hasard. En fait, on fait confiance à la ville telle qu'elle est faite pour résoudre notre problème. On n'a pas décidé à l'avance d'aller dans tel restaurant. Bon, on va dans un lieu. Et le gars leur dit écoutez, si vous cherchez quelque chose en plus pas cher, soit en passant c'était deux Espagnols dont la femme parlait extrêmement bien anglais, donc bon, c'est aussi un certain profil. Et il lui dit moi je connais très bien quelque chose qui est pas très cher. Si vous voulez, vous pouvez manger breton, vous pouvez aller manger des crêpes. Et je vous conseille d'aller au Jocelyn. Donc c'est un restaurant dans une rue à côté d'Edgar Quinet qui est pas. Vous allez. Et puis il commence à essayer de lui expliquer, mais alors vous prenez par là, alors vous tournez là, etc. Alors c'est un peu compliqué. Je les voyais galérer. Je leur dis attendez, moi je descends à Montparnasse, je vous y emmène. Et donc j'ai commencé. J'ai pris par la main. J'ai commencé à discuter. Alors d'où vous venez? Qu'est-ce que vous faites? Nanana. Et puis alors en arrivant, donc on remonte la rue d'Odessa. Je sais pas si vous connaissez la rue d'Odessa. Il y a un Indien sur la droite. Après il y a un restaurant d'entrecôte qui vient d'ouvrir. Enfin pas d'entrecôte, mais de viande française. Après il y a le restaurant du Sud-Ouest qui est attenant au magasin qui vend du foie gras à côté. Et puis on arrive sur la place de Edgar Quinet. Il y a le café de la place. Il y a l'Odessa. D'aller un peu plus loin. Bon et puis il y a la petite Provence. Je sais plus comment ça s'appelle. Et toutes les terrasses étaient pleines. Il me demande si c'est des touristes. Ben non, je ne sais pas. Il y a des touristes, mais il y a sans doute aussi beaucoup de gens du coin. Et puis ils étaient partis pour Jocelyn. Alors je dis ouais, le Jocelyn est là. Et puis je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je ne suis pas absolument sûr qu'ils soient allés au Jocelyn. Donc, vous voyez, c'est le hasard du hasard du hasard. Donc ça, c'est uniquement possible. Enfin, d'une part parce que les gens le veulent bien, parce qu'ils ont été acculturés à ce mode de fonctionnement. Ils ont fait confiance à la ville et la ville leur rend bien. Tant mieux. C'est pas le cas de toutes les villes. Quand vous avez des files, vous avez d'un restaurant à une maison, à un logement en voiture, sans voir ce qui se passe, c'est des files qui sont faites que de routes ne sont pas des villes. Un peu le cas de Johannesburg, par exemple. Mais Johannesburg, c'est fait comme ça pour une très bonne raison. Hein, je ne veux pas vous faire l'idée de l'apartheid. Vous pouvez regarder d'ailleurs, c'est amusant, on peut aller à Johannesburg. Ça fait un Afrique du Sud. Voilà. Alors déjà, vous allez chercher la ville un certain temps. Donc vu de loin, on la voit, la tache urbaine. Mais vu de près, c'est déjà moins évident. Où est la ville à Johannesburg? Bon, ben ça, c'est pas de la campagne. Ça, c'est la ville blanche. Ce sont des villes, ce sont que des lotissements, souvent fermés par une barrière. Et séparés les uns des autres, enfin par des routes. Il y a quelques centres commerciaux. Ça, c'est le centre ancien qui a été avant le centre d'affaires, en fait, occupé par les blancs. Ils sont tous partis vers les banlieues riches à partir du moment de la fin de l'apartheid. C'est réinvesti par les noirs qui, eux, avant habitaient au sud. Ici, c'est Soweto, dans ce qu'on appelle les townships. Et là, vous voyez par exemple le township d'Alexandra, voilà, qui est séparé. Hein, c'est bien, la vie est bien faite. Donc le township d'Alexandra où il n'y a pas un arbre est séparé des banlieues riches, ici, et d'un centre secondaire qui s'appelle Sandton, ici, par une autoroute et une zone industrielle où les Noirs travaillent. Donc tout va très bien, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème, les choses sont sous contrôle. Donc ça, c'est un type de ville qui est bon, qui est pas fait du tout pour le hasard. Vous savez où vous allez. Et du coup, une des villes les plus violentes qui existent, etc. Oui, non mais enfin, pas de township, mais. Oui. Voilà. Ce sont des emprises.
Soit, c'est
voilà. Voilà, ce sont des emprises. En plus,
on essaie de créer des axes majeurs pour recréer de la ville.
Bon,
et
voilà.
On recrée des axes majeurs pour recréer de la ville.
Voilà. Et là, il y a un problème d'échelle en général, parce que bon, j'ai récemment travaillé sur le plateau de Saclay. Je peux vous dire que Reichen, qui avait fait un plan de l'aménagement, qu'on avait demandé son avis, bon, ben, il nous avait fait un truc. Alors, attendez. On va aller à Saclay. Voilà le plateau de Saclay. Bon. Je sais pas si vous. Voilà. Paris, c'est ça, hein, d'accord. Non, j'enlève le transport. Paris, c'est ici. Le plateau de Saclay, c'est ça. Donc, en gros, il avait pris Reichen, donc architecte urbaniste, il avait fait un plan où il y avait une avenue qui partait de la Mamain jusqu'au bout. Ce qui, ça fait à peu près 15 km d'avenue. Une avenue ne peut pas faire 15 km. Oui, mais on marche pas 15 km. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une route. À des moments, il y aura une. Bon, mais il y a réellement un problème d'échelle. Et il faut vraiment réfléchir à ces questions-là. Parce que les métriques, la métrique pédestre, la métrique automobile définit des logiques de seuil qui fait que bon, il y a une logique de discrétisation de l'espace. Pour répondre maintenant à votre question, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que la configuration, que des politiques culturelles exploitent la possibilité du hasard. Tout ce que je viens de dire là ne relève pas d'une politique territoriale ou d'État. Ou du moins, c'est quelque chose d'assez général ou d'une volonté très forte qui a dit, voilà, là, on fait une place publique, là, on tranche dans le vif, etc. Les politiques territoriales, elles sont tenues à contrôler... Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est contrôler le réseau dans les limites de leur territoire. Quand elles sont conçues comme des politiques territoriales. Aujourd'hui, il est en train d'émerger l'idée dans le fond des cerveaux de certains chercheurs géographes qu'on pourrait éventuellement faire de l'aménagement du territoire de manière réticulaire. C'est-à-dire de dire on va agir sur tel lieu ou sur tel réseau et on va considérer que les pratiques vont entraîner quelque part une reconfiguration de la ville et des lieux publics. Mais c'est pas si évident que ça parce que je parlais d'idéologie au début de mon propos. On est vraiment aujourd'hui sur avec la logique territoriale, sur des logiques de fief, de contrôle. Et plus vous avez un morcellement et des acteurs, plus il est difficile de concevoir, de pouvoir se dire, voilà, on va concevoir un ensemble de cohérent qui prend en compte l'ensemble du réseau, alors qu'on n'a pas l'outil, on n'a pas l'outil englobant. Si je reprends mon système, pour le transport, c'est pareil, hein, les problèmes sont globalement les mêmes. Pour concevoir un système de transport à l'échelle de l'agglomération parisienne, c'est-à-dire qui aille chercher du monde partout, bah, il faut forcément avoir une autorité à cette échelle-là. Bon, en l'occurrence, c'est le STIF pour l'Île-de-France. Mais vous ne pourrez pas savoir comment c'est difficile de faire une ligne de transport ou de bus, quelle qu'elle soit, parce que vous allez traverser 15 communes ou 20 communes. Et 20 communes, c'est 20 maires. Qui sont les rois chez eux. Et donc, ça prend 10 ans, 15 ans. Et puis après, il y a les expropriations, les tracés. Parce que le problème du réseau de transport, c'est que vous mettez en relation les intérêts des uns et des autres. Donc après, vous avez le syndrome NIMBY, ce qu'on appelle. C'est un not in my backyard. Pas ça chez moi. C'est-à-dire que vous voulez bien avoir le TGV, mais s'il s'arrête chez vous. Donc si vous écoutez tous les maires des communes le long du tracé du TGV, le TGV, c'est plus le TGV. Il s'arrête à toutes les 3 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a la logique du réseau, elle suppose la mise en relation. Soit elle est spontanée par une question de partage d'intérêts, et là elle n'est pas portée par des politiques culturelles, et là on se débrouille, ou alors elle est portée par la subvention d'une organisation particulière, ce qui peut d'une certaine manière poser un problème, mais qui suppose en tout cas que cette subvention viendra plutôt de l'englobant, et donc la culture légitime, etc. Légitimée. Si vous êtes dans une logique de morcellement territorial, vous aurez énormément de mal à faire en sorte que l'ensemble d'un réseau soit financé parce que ça implique beaucoup de monde qui se sentent pas forcément des intérêts communs. C'est pour ça que je parlais finalement de cette logique politique derrière qui est la constitution d'un territoire, ça suppose qu'il y ait une telle interconnexion des réseaux qu'il y ait un avenir commun à définir. Et là, à partir de là, on pourrait éventuellement concevoir des politiques qui jouent sur les acteurs, qui jouent sur les réseaux, qui reconnaissent les réseaux en tant que tels et pas uniquement sur tel ou tel territoire. Mais ça suppose d'avoir la bonne échelle, bien sûr.
Voilà, il y a plein d'ouvertures.